When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, on est bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1, la F1 qui faisait relâche le week-end dernier avant de poser ses valises à Singapour pour la 15e épreuve de la saison. Et pour patienter avec Stéphane, on va faire un petit peu de fact-checking. On parlera notamment de Lance Stroll en comparaison avec Fernando Alonso, vous verrez ça. On parlera aussi de Felipe Massa, le Brésilien qui a adressé une lettre à la Formule 1 et à la FIA pour récupérer le titre qui lui a été enlevé, selon lui, en 2008 à la suite du Singapore Gate. Alors est-ce qu'on doit modifier le palmarès de la discipline après coup? On reviendra sur cette question et sur quelques autres cas de figure qui pourraient poser question. Et pour commencer, on va parler du nombre de dépassements en Formule 1. Depuis quelques Grands Prix, les pilotes ont fait remarquer que c'était de plus en plus compliqué de nouveau d'opérer des dépassements sur les épreuves. Alors que disent les chiffres? Où on en est? Eh ben, on a pris un petit peu de temps pour regarder tout ça. Et on va en parler dans les fous du volant. Aujourd'hui, on a sorti les calculatrices. Ça a chauffé, hein, Stéphane?
Oui, tout à fait. Et bah oui, parce qu'en fait, il y a des vérités qu'on prend pour sûr sans les vérifier. Et puis là, quand on y regarde d'un petit peu plus près, la vérité est un petit peu plus nuancée.
Exactement, c'est vrai. Donc on va voir ça. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez apprécié et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc avec ce sujet qui est une sorte de baromètre sur les épreuves de sport mécanique et de Formule 1 en particulier, à savoir le nombre de dépassements en course. Il y a eu une sorte de petit débat depuis le début de la saison, savoir si c'était plus compliqué cette saison de dépasser par rapport à l'année dernière, alors qu'en théorie, les F1 n'ont pas changé de configuration technique, elles ont simplement évolué par rapport à ce nouveau règlement apparu en 2022. Alors on s'est penché sur les chiffres avec l'aide aussi de notre confrère Julien Pereira. On est allé regarder le nombre de dépassements par saison, parce que d'abord il faut avoir des chiffres pour établir une comparaison. Alors simplement pour vous dire qu'on a enlevé aussi les dépassements lors du premier tour, parce que c'est toujours un petit peu la mêlée.
C'est toujours comme ça dans les stades
de la FIA.
Du promoteur et de la FIA.
C'est ça. Exactement. On a enlevé aussi le dépassement opéré lors des courses sprint, parce que sinon ça fausse le débat avec des saisons où il n'y en avait pas. Sont enlevés également, et ça c'est directement par la FIA et par la Formule 1, les dépassements dans les stands quand il y a un problème. Donc en 2021, avant le nouveau règlement avec l'effet de sol, il y avait eu 22 Grands Prix, 843 dépassements, soit 38,4 dépassements par Grand Prix. Retenez 38, hein, on va pas aller jusque dans les décimales. En 2022, donc la première année du règlement avec le retour de l'effet de sol, 22 Grands Prix, 997 dépassements. On est passé donc à 45,3 dépassements par épreuve. On voit 7 dépassements de plus d'une saison à l'autre. Et puis en 2023, donc cette saison, on a fait 14 Grands Prix depuis le début du championnat, 693, soit 49,5 dépassements par Grand Prix. Et là, en voyant ça, en préparant l'émission avec Sébastien Petit notamment, et son œil très précis, c'est bizarre quand même, c'est pas le sentiment qu'on a. Bah oui, mais il y a eu 187 dépassements rien qu'aux Pays-Bas, à Zandvoort, avec cette course complètement folle avec les averses. Si on retire ce Grand Prix des Pays-Bas, Stéphane, on arrive à 506 dépassements. Et donc, en 13 Grands Prix, si on prend les 13 Grands Prix en excluant celui des Pays-Bas, on est à 38,9 dépassements. Donc on revient quasiment à 2021. Tout ça pour ça. En fait, la nouvelle réglementation a été effacée par les efforts des ingénieurs depuis un an et demi maintenant pour faire progresser les autos, leur permettre de développer des qualités d'appui aéro. Et on se retrouve avec finalement le même nombre de dépassements qu'en 2021.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas tirer des conclusions au bout de deux ou trois saisons du nouveau règlement ? Est-ce que ce n'est pas un phénomène particulier simplement pour cette année ? Faut être très prudent par rapport à ça. Et dans le paddock, il y a toujours des gens qui cherchent à gagner, qui cherchent à modifier en fait les règles ou qui se plaignent tout simplement de ne pas pouvoir dépasser parce que la voiture n'est pas assez bonne. Et à l'arrivée, un pilote qui n'est pas parvenu, qui est resté coincé derrière Albon, par exemple, avec une meilleure voiture, il va dire à son patron, mais oui, c'est mais pas ça ne dépasse pas ouais. aujourd'hui en Formule 1. Donc c'est vraiment la raison est technique. On se défausse par.
C'est vrai aussi. C'est souvent ceux qui sont plus loin qui ont envie de changer le règlement.
Exactement. Donc. On a changé le règlement en 2009 et puis en 2017. Tout ça, c'était autour de l'aéro quand même, en 2022 aussi. Et le but en 2022, c'était que des voitures puissent se suivre de plus près. Et je trouvais que le règlement était bien réussi.
On avait attendu quelques Grands Prix l'année dernière, souviens-toi Stéphane, pour faire un fou du volant où justement on revenait là-dessus et on avait dit c'est plutôt validé. Il y a un chiffre quand même qui a été... dévoilé par Nicolas Tambassis, qui est le responsable de la technique de la FIA, qui est très très intéressant et qui finalement explique un petit peu ce que les pilotes décrivaient.
Alors on précise bien, designer historique chez Ferrari de la grande époque de la Scuderia.
Exactement.
Donc quelqu'un qui sait vraiment
de quoi il parle. En 2021, donc avant le nouveau règlement, à deux longueurs derrière une Formule 1, on perdait 50% de la charge aéro à cause des perturbations. Ce chiffre, il est passé en 2022, donc avec la nouvelle réglementation aéro, à 20%. Et c'est ce qui faisait que les voitures pouvaient se suivre de plus près et donc plus facilement dépasser, en tout cas avoir plus d'opportunités pour dépasser. Eh bien, en 2023, d'après les études faites par la FIA, on est revenu à 35% de perte aéro. C'est-à-dire que, effectivement, c'est reparti à la hausse, la perte aéro. Et ça explique aussi que ce soit plus difficile de dépasser.
Une perte aéro, voilà, pour la voiture qui suit. Oui. Donc, qui a beaucoup plus de difficultés à garder la distance avant d'attaquer dans les virages. Et donc, ça complique sa tâche, forcément. Mais dans tout ça, le règlement 2022, il est bien né. Et on s'est empressé de le corriger d'une façon, je trouve, malheureuse, vraiment en rehaussant les planchers pour combattre l'effet de marsouinage à la demande quand même insistante de Mercedes.
Exactement.
Et il fallait un petit peu ménager tout le monde dans cette histoire parce que, de toute façon, Mercedes ne s'en sort pas beaucoup, beaucoup mieux cette année. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on perd de l'aéro par ce subterfuge.
Oui, c'est ça. On a relevé les autos.
Voilà, pour corriger un autre problème. En fait, on déplace le problème parce que maintenant, ça dépasse moins. Donc, ce sont les mêmes gens qui participent à fabriquer cette nouvelle situation qui ensuite en dénoncent les inconvénients. Donc, pour moi, le règlement, il ne devrait pas bouger pendant deux ou trois ans. Et on fait vraiment un point avant de s'emballer. Bon, maintenant, en fait... on cherche de nouvelles solutions. Et ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est qu'on change trop souvent de règlement. Et il y a de nouvelles équipes qui arrivent à la FIA et qui ont un point de vue un petit peu différent ou qui écoutent d'autres personnes et qui pensent avoir la solution miracle. On a à peu près tout fait. Aujourd'hui, on espère maintenant solutionner ça d'abord en réduisant le poids des voitures parce qu'on dit aussi que elles sont moins vives, donc c'est moins facile de dépasser dans des sections qui sont tortueuses.
Elles sont de plus en plus imposantes, plus longues, plus larges. Forcément, les pistes, elles s'élargissent pas. Donc, ça devient de plus en plus compliqué aussi.
On a déjà fait ce chemin-là avec Mosley en 98, je crois. Il y avait les pneus rainurés pour rallonger les distances de freinage. Et puis, les fins étaient beaucoup plus étroites. Ouais. 1,80 m contre 2 m auparavant. Et là, on disait, ça va être beaucoup plus facile de se dépasser. Et puis, on a choisi d'autres solutions. On est allé vraiment pour satisfaire cet effet de sol, cette recherche d'effet de sol en 2022. On est retourné à des voitures vraiment qui sont impressionnantes, qui sont imposantes, que je trouve géniales. Et c'est Alain Prost qui disait sur l'ancien règlement, vraiment avec les voies étroites des voitures, ça ressemble à des grosses Formule 3. Et pour moi, une F1, ça doit être un objet impressionnant, d'abord. Donc, on veut retourner vers cet ancien temps, il y a 25 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Le poids étant l'ennemi quand même, aussi, à combattre.
Oui, clairement, clairement. Et ça, il va falloir un petit peu de temps pour faire progresser la technique. Hein. Les batteries, tout ça, ça pèse lourd. Tu as des chiffres, Stéphane, toi, sur les dépassements en piste et oui. Les Grands Prix avec un seul leader. Ça va peut-être nous donner peut-être remettre en perspective. On a vraiment le sentiment de s'ennuyer plus cette saison, à part quelques exceptions, qu'auparavant. Là, on a compris qu'il y avait moins de dépassements. Donc, on se dit, ah tiens, oui, donc effectivement. Mais, il y a un mais. Il y a des stats qui ne sont pas forcément dans ce sens-là non plus.
Oui. Parce que, si tu as remarqué, Gilles, ces dernières années, quand même, on nous montre beaucoup plus de bagarres pour la 11e place, pour la 15e place. Il y a des vrais
Il y a des vrais efforts faits par les réalisations pour montrer ce qui se passe un peu plus loin dans le peloton, ça c'est clair.
Tout à fait, alors qu'avant, on avait l'impression qu'on nous montrait vraiment que les 5 premiers, on ne savait pas trop ce qui se passait derrière, parce que... il n'y a encore pas si longtemps que ça, les 6 premiers, simplement, à l'arrivée, étaient récompensés et les autres étaient un peu des anonymes du peloton et on s'y intéressait pas tellement.
Les ressources en termes de télé aussi. Toutes les voitures ont des caméras embarquées aujourd'hui. Donc, quand il y a eu un dépassement plus loin, on peut le recaler et le montrer. Il y a eu une époque où il n'y avait que quelques voitures qui avaient les caméras embarquées.
Exactement. Et moi, je trouve qu'on nous montre beaucoup de dépassements maintenant. Mais est-ce que, finalement, il y en a aussi devant. Ça, c'est ce que je me suis demandé. Et plus précisément, pour moi, le critère, c'est est-ce que le vainqueur dépasse
pour gagner.
Le leader pour gagner. C'est-à-dire le dépassement décisif.
Voilà, exactement.
On pourrait dire ça comme ça. En regardant bien, en 2019, il y a eu 11 dépassements en piste, mais quand même 6 rien qu'au départ.
Ouais,
donc, ça fait 5 réellement sur la piste. 5 en 2020, aucun au départ. En 2021, on en a eu 12.
Ah, beaucoup plus.
3 simplement au coup d'envoi, donc ce qui paraît à peu près équilibré. Donc 9 déjà en piste, c'est pas mal. Hein. Et c'est le chiffre qu'on a eu en 2022. Et là, pour 2023, après seulement 14 Grands Prix, on a eu 8 changements de leader décisifs en course, sur la piste. On ne vous parle pas d'undercut ou de quoi que ce soit. Donc c'est du concret. Ça veut dire quand même que...
Il se passe des choses.
Du spectacle devant, quand même. Et même si un Verstappen se retrouve avec la meilleure voiture à attaquer le leader, il faut quand même qu'il aille le chercher. Et c'est ce qu'il fait. Il fait le job. Et il n'y a pas que Verstappen. Donc, je trouve qu'il n'y a pas matière à être spécialement pessimiste là-dessus.
Je suis d'accord. Mais tu vois, ce chiffre-là sur le dépassement décisif cette saison, 8 déjà en 14 Grands Prix,
bien sûr.
Je m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Tout à fait. Et les Grands Prix avec un seul leader, ça, c'est une donnée à peu près constante. Souvent, le poleman qui fait
la course en tête.
La course parfaite. Voilà. Eh bien, on en a eu 5 en 2019, 2020 et 2021. 3 seulement en 2022, donc là aussi c'est pareil, ça tournait devant, mais après ça peut être par l'effet des pit-stops quand le leader s'arrête, il y a quelqu'un d'autre qui passe en tête comme Oscar Piastri au Grand Prix d'Italie, tu te dis bon c'est quand même un underdog, c'est pas un vainqueur en puissance,
c'était
mais
un leader
ça tourne.
Circonstanciel.
Ouais, tout à fait, et là il y a simplement que 4 pilotes qui ont fait la totale Grand Prix du début à la fin en tête cette année. Ça veut dire que là encore, ça bouge, on a du mouvement. Bon, il faut rester quand même assez optimiste là-dessus, sur cette notion de spectacle, alors qui n'est peut-être pas créée par du dépassement là en l'occurrence, mais je trouve qu'il faut nuancer ces propos de « ça dépasse pas assez en Formule 1 », ce qu'on a l'impression d'avoir toujours entendu en Formule 1.
Et puis, après, il y a ces dépassements aussi. Ce que j'aurais bien aimé, on n'a pas cette stat, et s'il fallait la faire, il nous faudrait plusieurs semaines de travail, c'est de savoir aussi quels sont les dépassements qui sont faits dans des zones DRS avec deux voitures qui sont en ligne droite, avec une voiture qui en dépasse une autre. Ça, pour moi, c'est un dépassement comptable, d'accord, mais ce n'est pas du spectacle. Sinon, tu te mets sur un pont au-dessus du périphérique parisien et tu vois des milliers de dépassements et t'es super content, quoi. Voilà. Bon, ce n'est pas du spectacle. Ce qu'on appelle un vrai dépassement, c'est un pilote qui va aller chercher l'aspiration, qui va venir au freinage, prendre un risque, retarder son freinage, être aux limites de la voiture, être aux limites des pneus pour dépasser. Ça, c'est quand même très, très difficilement mesurable.
On a été bien servi quand même au dernier Grand Prix à Monza,
ça, c'est
en la matière. Quand même.
Mais
donc,
Monza,
c'était spectaculaire.
C'est quand même une tradition. On en revient toujours. Il y a certains circuits, on en revient toujours à la même chose. Il y a certains circuits qui sont producteurs de spectacles et d'autres qui sont producteurs d'une sieste absolument monumentale qui devrait presque être remboursée. remboursés par la sécurité sociale. On a aussi demandé à Pirelli de faire des pneus qui s'usent moins. Bah, donc forcément, si les pneus s'usent moins, il n'y a pas un moment des pilotes qui, par leur stratégie, vont prendre l'ascendant ou vont se retrouver complètement en perdition sur la piste. Ça aussi, c'est une façon peut-être un petit peu artificielle de faire du spectacle, mais on a aussi enlevé ça cette saison. Mais on se rend compte que de toute façon, tant qu'on aura ces autos qui créent des perturbations comme ça, et donc tout le travail qui est fait autour de l'extracteur, autour de cet aéro, on s'en sortira pas. Il faut pouvoir suivre une voiture au plus près dans les virages pour pouvoir ensuite venir tenter d'attaquer. Et Nicolas Tombassis confiait également qu'il va y avoir des changements qui seront faits dès 2025. Hein. On n'attendra pas la nouvelle réglementation
technique. Ça me paraît incroyable, ça, quand même.
Mais on ne peut pas le faire pour 2024, pour la bonne et simple raison que les voitures qui seront sur la grille de départ en 2024, elles sont déjà en partie dessinées, en partie réalisées, au moins virtuellement. Et que là, si on disait aux équipes, bah voilà, on change ça, ça serait la catastrophe.
Ouais, parce qu'à l'heure où on vous parle, les voitures de 2024
elles sont faites.
Ouais, voilà, bien sûr.
Elles sont déjà faites. Donc ça sera pour 2025. Et c'est pas plus mal parce que, comme tu le disais, faut pas changer tous les trois mois parce que, on a vu tel chiffre, alors il faut changer. Non, à un moment, il faut un petit peu de constance. Donc on verra ça, mais on voit qu'il y a quand même une tendance là à de nouveau un abaissement du nombre de dépassements. Alors après, ça peut faire des grands prix quand même spectaculaires. Mais effectivement, cette tendance, elle est réelle. Bon, il y a aussi un dernier point, Stéphane, c'est que tous les ingénieurs de toutes les équipes de Formule 1, de toute façon, auront toujours une capacité supérieure pour s'adapter et pour contrecarrer les plans d'une cellule technique de la FIA. Aussi talentueux soient-ils, ils sont moins nombreux et à un moment ils sont dépassés.
Oui, mais alors c'est le propre, hein, c'est le législateur se fait toujours rattraper par les équipes techniques. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que on procède pas par petites touches. Il faut faire la révolution tous les 5 ans et c'est ce que je ne comprends pas.
Souvent, quand une équipe arrive, une équipe administrative, hein, je parle à la FIA ou à la Formule 1, elle veut
justifier aussi. Voilà,
ça arrive même dans les
son salaire, on va dire.
Ça arrive dans
résumer.
N'importe quelle grosse société. Non, oui. Non, mais les gars, nous, on sait comment faire, on va faire différemment. Et puis, parfois, ça marche beaucoup moins bien.
Gilles, je regardais juste.
Ça pour nous, hein, nous, non. C'est nickel.
À Monza, on a eu 5 leaders différents. Et ça arrive une fois par saison. Enfin, c'est arrivé une fois l'année dernière. C'était à Budapest, on est généralement sur 2 ou 3 leaders différents, donc ça veut dire que ça amène quand même un petit peu du suspense. Mais alors là, tu parlais des équipes techniques qui essaient de contrecarrer ce qui se passe au niveau de la FIA. Il y a la question de la flexibilité des ailerons avant qui est revenue. Il y a la question aussi du DRS magique de Red Bull. Et il y a beaucoup de DRS, enfin il y a beaucoup de dépassements au DRS qui sont produits régulièrement. Mais moi, je trouve que on pointe du doigt ça comme une anomalie, mais je trouve que c'est quelque chose qui doit rester. Le règlement 2022 devait supprimer ce DRS.
C'était
au moins
le but,
sur
en tout
beaucoup
cas.
De circuits. Il en est absolument plus question. Moi, je rappelle juste une chose, c'est que le DRS, ça a été fait pour que le leader qui prend un tour au 12e ou au 15e de la catégorie ne reste pas bloqué, même s'il est une seconde et demie plus rapide. C'est ce qui arrivait trop souvent. Je le rappelle, sur un circuit comme Montmélo, il faut être 2 secondes 3 plus rapide que celui qu'on veut dépasser pour dépasser simplement naturellement sans l'artifice du volet rabattable arrière. Donc quelque part, c'est un non-sens. Bon, et quand tu te réjouis le samedi que la hiérarchie est très très serrée en qualif, que ça se joue à coup de centième, tu peux pas.
Paradoxalement, tu as le droit de redouter un Grand Prix où ça sera quasiment impossible de dépasser.
Voilà, ça dégage aucune marge le dimanche pour dépasser. Donc, on ne peut pas avoir les deux.
Exactement.
C'est impossible. Et moi, je trouve simplement que je suis un peu choqué quand le deuxième attaque le premier, rien qu'avec le DRS. Normalement, ça devrait se jouer à la loyale, à la régulière, on va dire, parce que le DRS n'est pas déloyal, mais simplement, là, il y a un petit coup de dopage technique qui n'est pas le bienvenu. Et c'est ce qu'on reproche peut-être globalement, c'est qu'on voudrait vraiment un gros freinage, quelque chose, un morceau de bravoure pour mériter la première place et pas simplement donner l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour dépasser.
Pour dépasser. Je pense qu'on va s'intéresser de plus près, et c'est ce que j'ai cru lire entre les mots de Nicolas Tambacis, notamment à ces extracteurs, à cette façon. Je pense qu'il va y avoir, de la même manière qu'il y a des ailerons là au-dessus des roues avant, il y a certaines pièces aéro qui sont communes à toutes les équipes et qui sont obligatoires. Je pense qu'on ira vers quelque chose de cet ordre-là pour l'année 2025, de manière à réduire les perturbations et que personne finalement ne puisse jouer là-dessus. C'est un sujet qui est très très intéressant, mais c'était, j'ai trouvé ça finalement intéressant, ouais. Nous dans notre rôle en tout cas de faire le point sur les chiffres et de montrer qu'effectivement on était revenu à ce qui se passait en 2021.
Ouais, mais je trouve que le sujet de l'aéro n'est pas très populaire auprès du jeune public qu'on veut intéresser à la Formule 1, et ce qui est un petit peu dramatique, c'est la puissance des moteurs est gelée. Et il y a des époques où c'était la course à la puissance et chaque motoriste annonçait sa nouvelle puissance à Monza, enfin dans des endroits stratégiques championnat. Et c'était la course à la technologie, c'est quelque chose qui était très perceptible.
Oui, mais
et maintenant,
ça coûtait très cher.
On parle extracteur, mais
les
heures de soufflerie aussi coûtent très très cher. Il y a des armées d'aéronémiciens dans les équipes, on en compte 300, 350, 400. C'est vraiment grande part des effectifs aujourd'hui.
C'est le nerf de la guerre,
il y a beaucoup
clairement
à gagner là-dessus. Et les gens ne comprennent pas ça. Et puis l'extracteur, c'est quelque chose qui est quasiment invisible, qui se situe sous la voiture. Donc le public ne comprend pas non plus.
Ne s'y intéresse pas, voilà, c'est clair.
C'est part de la technique.
Le deuxième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, ça part d'une déclaration de Mike Krack, le patron de l'équipe Aston Martin, qui, en voulant protéger Lance Stroll, a évoqué un écart de 3 dixièmes au tour entre Fernando Alonso, donc, et le jeune Canadien de l'équipe. Et là, Stéphane, on a quand même eu envie de vérifier si cet écart entre le pilote canadien et le double champion du monde espagnol était véritable, bon, sachant que les deux hommes feront partie de l'équipe Aston Martin en 2024, hein, ça a été confirmé. Le premier point qui m'a intéressé, on va revenir plus précisément sur cet écart, c'est de voir l'écart finalement entre Lance Stroll et Fernando Alonso. Est-ce qu'il est plus largué que les autres deuxièmes pilotes de l'équipe? Bah, j'ai simplement regardé le nombre de points d'écart entre deux pilotes de la même équipe. Alors, il y a entre Max Verstappen et Sergio Perez, 145 points d'écart. C'est le plus gros écart entre deux pilotes. Mais bon, quand vous en avez un qui a gagné 10 Grands Prix de suite, donc forcément, à chaque fois, il marque 25 points. Derrière, même si vous êtes deuxième, vous perdez 7 points à chaque fois. Ça commence à chiffrer. Donc, on va dire que, même si ce n'est pas malgré tout très positif pour Sergio Perez, on va mettre ce chiffre de côté. Le deuxième écart, c'est Fernando Alonso face à Lance Stroll. Alonso est cinquième du championnat, Lance Stroll est onzième, et il y a 70 points d'écart. C'est le deuxième plus gros écart entre coéquipiers. Ensuite, il y a entre Hamilton et Russell, entre Lando Norris et Piastri, puis enfin entre Albon et Sargeant. On va justement reparler du duo de Williams dans un deuxième temps. Stéphane, alors, est-ce qu'il y a bel et bien que 3 dixièmes d'écart entre Fernando Alonso et Lance Stroll sur un tour?
Mike Krack a bien parlé du rythme. Il a dit précisément qu'il n'y a pas un si grand écart en termes de
performance.
Voilà, donc de performance sur un tour. Et moi, quand j'entends ça, quand j'entends parler le directeur d'équipe d'Aston Martin à Zandvoort, je me dis, est-ce qu'il ne nous raconte pas des cracks? Comme on dit dans le langage un petit peu familier. Donc, est-ce qu'il n'enrobe pas un petit peu la vérité? Otmar Szafnauer était le biographe, sinon l'hagiographe officiel de Lance Stroll chez Aston Martin. On avait bien compris qu'il fallait soigner le fils du patron. Et là, on se dit, il recommence en fait. Lui, il a bien compris aussi son rôle. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, en partie, oui.
D'accord.
En partie, oui, quand on regarde tout simplement l'écart de performance sur le chrono en qualification, en Q3. Alors, je précise que, évidemment, quand Stroll n'est pas en Q3 ni même en Q2, on compare les chronos
de Q1.
De Q1 ou
de
Q2.
Ou de Q2. D'accord.
Tout à fait.
En tout cas, de la dernière partie de qualification où les deux sont en lice.
Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? C'est que il y a 0,38 secondes d'écart, donc 38 centièmes d'écart sur un tour, Un tour, donc, en moyenne, sur les 14 Grands Prix de la saison, sur un tour, parce qu'ils ne font pas tous le même temps. Sur un tour à peu près moyen de 1,20. J'ai regardé le tour moyen en Formule 1 cette année, c'est 1,23.
D'accord.
Donc là, c'est 1,20. Donc, quand il annonce 0,30, on est à 0,38, c'est pas loin de la vérité.
Ouais, on est. Ouais.
Mais je trouve que
il
c'est quand même.
Il est pas allé jusqu'au centième.
Voilà, c'est quand même important, c'est quand même conséquent. Oui, presque 0,4, c'est quand même assez gênant.
Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'on sent que le peloton, finalement, est de plus en plus proche avec le budget cap, avec toutes les modifications techniques qui ont été faites là pour essayer d'homogénéiser ce peloton. Un 4 dixième, ça commence à faire quand même beaucoup.
Oui.
Et en termes de place sur la grille, notamment.
Mais on l'avait calculé, justement, on l'avait évalué sur la grille type qu'on avait faite, qu'on avait fournie... juste avant la trêve estivale. Et il y avait 7 places d'écart. Maintenant, il n'y en a que 6. Il a un petit peu corrigé le tir. Mais après 14 Grands Prix, on peut voir sur la grille type que Alonso se qualifie en moyenne à peu près sur cette grille type 5e et que Stroll est 11e. Alors, vous voyez le nombre de points aussi affichés. On va le rappeler très simplement. C'est, on additionne toutes les places et on retire les deux moins bons résultats. Donc Verstappen a 20 points, Sainz 45. On parlait aussi de Sainz comme meilleur performeur derrière Verstappen, ça se confirme.
En qualification,
Alonso est 5e. Voilà, dans un paquet avec Hamilton, Leclerc, et voilà, ça se joue à un ou deux points près. Ouais. Et puis Stroll, il lutte plutôt avec Ocon, avec même des gens comme Hülkenberg qui doit regarder. Bon, donc ça veut dire qu'il y a 6 places d'écart. Ça signifie bien que le peloton est assez resserré, est très compétitif en qualification.
Alors, tu dis « vous voyez » parce qu'on met des tableaux, et ça c'est pour les extraits vidéo. Ceux qui nous écoutent sur le podcast, forcément si vous nous écoutez, vous n'avez pas la vidéo, mais il y a possibilité d'aller chercher l'extrait vidéo et vous verrez les chiffres et les courbes, notamment préparées par notre ami Marco Popovic. Ça vous permet d'avoir l'image en plus, nous voir en plus. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais c'est une possibilité.
Alors, concernant... Stroll, toujours là sur un chrono moyen de 1,20 au tour. La tendance est un petit peu inquiétante quand même parce que je vois 0,74 en Belgique, 0,69 et 0,79 en Italie.
Ah, c'est les derniers Grands Prix, ça.
Voilà, c'est ça, d'écart en termes de secondes. Et là, il va falloir se réveiller.
Ah oui, parce que c'est
franchement
0,79, c'est le double.
Oui, tout à fait. Et Mike Crack a volé au secours de Stroll en disant... Nous avons eu des problèmes quand même de stratégie, de fiabilité dans l'équipe et à chaque fois, ça a frappé la voiture de Lance Stroll. Bon, quand on regarde, il a eu 2 abandons. Alonso n'en a eu aucun. C'est pour ça aussi qu'on retrouve un écart assez conséquent au championnat. Mais Stroll n'est pas exempt de tout reproche. S'il a cassé un moteur en Arabie Saoudite, le crash du Grand Prix de Monaco lui est plutôt imputable quand même. Donc là, c'est pareil, c'est que si tu termines pas, face à un adversaire comme Alonso, c'est assez punitif.
Alors,
et d'ailleurs, ça se voit en qualif, c'est du 12-2.
Ah oui, 12-2, voilà. c'est
quand même
clair
et net. Tout à fait.
On a voulu élargir un petit peu la réflexion. On s'est dit, tiens, si on se pose la question du côté de Lance Stroll...
La question qu'on se pose, c'est quoi? C'est que fait-il en Formule 1?
Oui.
Est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il la mérite? Est-ce que d'autres pilotes sont assez loin
de leur coéquipier
de référence pour justifier leur place en Formule 1?
Et on s'est intéressé au cas de Logan Sargeant, l'Américain de chez Williams, le coéquipier d'Alexander Albon. 21 points d'écart entre les deux hommes, sachant qu'Albon...
C'est 21-0.
Il caracole pas exactement en tête du championnat. Alors, on en est où sur ces écarts? On a finalement fait le même principe, les mêmes
calculs. Tout à fait. Et là, l'écart, c'est 67 centièmes, 0,67 secondes. C'est énorme. C'est le double de Stroll.
De l'écart entre Alonso et Stroll. Ouais.
Tout à fait. Et là, c'est pas acceptable. Et ça correspond, c'est assez marrant, aux deux dernières valeurs, à Zandvoort et à Monza, 0,67, 0,66.
Ça veut dire qu'à l'inverse de Stroll, il a stabilisé, lui, sur les deux derniers Grands Prix.
Voilà, c'est ça, sur un tour de 80 secondes, un tour de 80 secondes. Donc, il est dans une... Alors, il l'a déclaré lui-même... Il s'est trouvé en progrès sur la campagne européenne qui s'est terminée là. Et il est conscient d'avoir des choses encore, des scories à lisser.
C'est
vraiment
ça.
Dans son pilotage. Et qu'il dit qu'à partir de là, il sera mieux. Et moi, je trouve que s'ils ont investi sur un pilote comme ça débutant chez Williams, ils l'ont recruté parce qu'il est surtout américain, hein, la même nationalité que le propriétaire qui veut avoir de la visibilité, donc tout ça, ça se comprend très très bien. Bah, il faut laisser le temps à un pilote d'abord de prendre en compte tout son environnement.
Ah, c'est et puis une forme d'investissement, à un moment, il faut rester cohérent.
Et on attend une progression vraiment en deuxième partie de saison. Il est un petit peu moins loin du compte qu'il a pu l'être cette année, il a pris une seconde 64 sur un tour type de 80 secondes à Silverstone, donc ça fait quand même beaucoup. Des fois, il n'est pas là hein, complètement, ouais. c'est clair. Et quand le circuit est assez long et compliqué, etc., en Belgique aussi, ça donne 8 dixièmes. Donc c'est là où il y a des trous d'air, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, clairement, dans la deuxième partie de saison, il ne faut plus qu'il y ait ça, sinon il perdra sa place.
Oui, il fait tout ce qu'il peut pour s'accrocher, et à chaque crash, on se demande s'il va rester en Formule 1. Tout ça, ça revient finalement à la même chose, c'est quelle est la valeur des nouveaux entrants en Formule 1 et comment est-ce qu'ils ont justifié leur place en Formule 1. Et on en revient à la même chose, Sargeant était quatrième du championnat de Formule 2 l'année dernière. Je trouve que c'est...
Quatrième ou cinquième, je ne sais plus, c'était dans ces eaux-là.
Je crois que c'était quatrième et c'était un petit peu juste. Et c'est pour ça que il est un petit peu en souffrance, même si il a bien débuté la saison. Il y avait 16 dixièmes d'écart à Bahreïn.
Ah oui, mais à Bahreïn, il y avait eu une séance d'essai avant. C'est ça aussi. Oui, hein, Logan Sargeant, il n'a pas fait d'essai du tout. Une journée et demie d'essai à bord de la voiture avant de démarrer le championnat. C'était à Bahreïn.
Mais ce qui est étrange, c'est que l'écart était aussi assez élevé à Montmélo. Bon, bref, c'est un problème quand même d'ordre général, parce que quand tu prends autant, presque 7 dixièmes sur un tour type, en Formule 1, c'est que tu n'es pas vraiment dans le coup. Là, il y a quelque chose de général. Et ce qui ne l'a pas avantagé aussi, certainement, c'est la connaissance ou un peu le métier d'Albon, parce que la voiture a progressé techniquement et lui n'a pas progressé en même temps dans les mêmes proportions.
Voilà, donc on a vérifié l'écart entre Stroll et Alonso est un petit peu plus grand que ce que disait Mike Crack.
Et en qualif, ça fait 14-0 pour Albon. Ouais. Donc effectivement, là, réveil... exigé de toute urgence pour Sargeant.
Le dernier acte qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est cette lettre que Felipe Massa a adressée à la FIA et à la Formule 1, aux organisateurs de la FIA, en réclamant réparation et notamment de récupérer le titre de 2008. Alors je vous rappelle le classement de la Formule 1 en 2008. Lewis Hamilton avait obtenu le titre de champion du monde avec un total de 98 points. Felipe Massa en avait obtenu 97. Kimi Raikkonen et Robert Kubica étaient 3e et 4e avec 75 points. Et puis Fernando Alonso, 61. Alors déjà, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est allez regarder le dernier Grand Prix, le Grand Prix du Brésil 2008, avec cette finale qui est absolument folle. C'est un des Grands Prix les plus incroyables de l'histoire de la Formule 1, avec Lewis Hamilton qui dépasse notamment dans le dernier tour Timo Glock pour aller chercher, je crois, la cinquième place. Et pour marquer les quelques points supplémentaires qu'il lui fallait pour obtenir le titre. La réclamation de Felipe Massa, en fait, elle ne concerne pas ce Grand Prix du Brésil, mais le fameux Grand Prix de Singapour 2008, hein, celui qui a donné lieu au Singapour Gate, lors duquel Renault a demandé à Nelson Piquet Jr. d'aller se mettre volontairement dans le mur pour provoquer...
Alors, Flavio Briatore, plus précisément.
Oui, c'était le patron de l'équipe.
Le patron de l'équipe, mais pas directement Renault, mais c'était une initiative personnelle de Flavio Briatore.
Et donc, il y avait eu un safety car et ça avait permis à Fernando Alonso, à la fin, de remporter la course. Pendant cette deuxième partie de course, Felipe Massa était rentré au stand. L'image est assez connue. Hein. Il était reparti trop vite. À cette époque, on faisait encore les ravitaillements en carburant pendant les Grands Prix. Il était reparti avec le tuyau pour faire le plein.
Le bois.
Il avait tout arraché. Il s'était arrêté incroyable. Au bout de la ligne droite des stands. Il avait abandonné alors qu'il était en tête du Grand Prix.
Il était reparti.
Oui, mais il avait fini par abandonner.
18e et dernier. Voilà.
Et en tout cas, il n'avait pas marqué de points. Et... forcément, alors qu'il était en tête du Grand Prix au moment où Nelson Piquet Jr. était allé se mettre dans le mur. Et l'histoire, c'est que Hamilton, lui, avait fini 3e. Il avait donc marqué 6 points. À la fin de la saison, il est champion pour 1 point. Et l'histoire, c'est que Bernie Ecclestone, il y a quelques semaines, quelques mois, a déclaré que les organisateurs de la Formule 1 avaient eu connaissance avant la fin de la saison 2008 qu'il s'était passé quelque chose et que finalement il allait falloir regarder de plus près ce qui s'était passé. C'est ce qu'on a fait après. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, Nelson Piquet Jr. avait eu cette consigne, qu'il avait fait exprès d'aller se mettre dans le mur. Et donc, lui, il dit, ben, si des gens étaient au courant qu'il y avait eu tricherie sur ce Grand Prix et qu'on n'a rien fait, c'est une sorte de conspiration qui a abouti à la privation du titre pour Felipe Massa. Et donc, il faut peut-être lui rendre son titre. Et peut-être aussi quelques poignées de dollars, parce qu'il y a des primes quand vous êtes champion du monde. Et puis éventuellement, ce qu'on n'arrive pas à imaginer derrière, c'est les sponsors qu'il aurait eu ensuite s'il avait été de nouveau champion du monde. Vous imaginez le premier champion du monde brésilien après Ayrton Senna. C'est sûr que ça aurait peut-être pu lui changer sa vie. Alors la lettre avant-poursuite, adressée le 15 août, donnait 2 semaines à la Formule 1 pour y répondre. Normalement, on y est et on n'a pas communiqué du côté de la FIA, du côté de la Formule 1, pour savoir ce qui allait se passer. Stéphane, est-ce qu'on peut changer le nom du champion du monde 2008, 15 ans plus tard?
Les avocats, dans leur courrier à la FIA, parlent de Felipe Massa comme le champion du monde légitime
oui.
de 2008. Donc ça veut dire qu'ils veulent récupérer le titre, avec peut-être aussi des dommages financiers. Je trouve que l'entreprise aurait plus d'élégance s'il réclamait simplement le titre de champion du monde et puis un euro symbolique de dommages et intérêts. Mais ça veut dire aussi que 15 ans après, ça le travaille, ça le poursuit, que ça doit l'empêcher de dormir parfois parce qu'il est passé juste à côté de son destin. Il a été champion du monde.
L'image, elle est terrible. Quand il remporte ce Grand Prix du Brésil, on voit l'image de son père notamment qui lui ressemble. Aujourd'hui, oui. Felipe Massa, c'est le portrait craché de son père il y a 15 ans. Et qui...
Tout le clan croit au titre.
Ouais, faites le titre de champion du monde de Felipe Massa, sauf qu'ils n'avaient pas anticipé que Lewis Hamilton allait dans l'avant-dernier virage dépasser et finalement aller chercher le point qui fait de lui le champion du monde. Donc cette déception-là, ce coup de foudre qu'ils prennent à ce moment-là, on sent qu'il est toujours là en fait, dans leur esprit. Il les hante.
Oui, alors moi ce que je veux, c'est rappeler peut-être un petit peu aussi le contexte du premier Grand Prix de Singapour, de l'histoire d'ailleurs, et premier Grand Prix de nuit en Formule 1, mais marqué à jamais de toute façon par cette histoire, à l'issue de laquelle plusieurs personnes de l'équipe Renault ont été condamnées, reconnues comme impliquées dans cette machination. Voilà, il n'y avait pas que Flavio Briatore. Mais Felipe Massa est en tête. Il explique en fait que l'accident volontaire de Piquet lui porte préjudice parce que ça change complètement son plan de course. Il rentre, les autres n'ont pas fait d'erreur. C'est sa propre erreur de repartir trop tôt. Donc là, c'est le premier point qui pour moi n'est pas vraiment recevable. On ne peut pas dire que c'est une victime du début à la fin. Et puis deuxième chose, le clan McLaren... parce qu'il s'agirait de retirer un titre pilote à l'écurie McLaren. Le clan McLaren n'a rien fait de particulier
lors de cette course. Si à la rigueur, c'est Fernando Alonso, ou en tout cas un pilote Renault qui avait été titré, effectivement, on aurait pu se dire, bon, on peut peut-être éventuellement rendre justice.
Et puis, surtout, c'est que le leader du championnat à cette époque-là, c'est Lewis Hamilton, même par une faible marge. Et c'est lui qui va le rester. Et sur l'année, combien de Grands Prix, selon toi, Massa a-t-il fait en tant que leader du championnat?
Alors ça, aucune idée.
Un seul.
Ah ouais.
Voilà, tout à fait.
Ah oui,
donc,
mais on s'en moque. Si t'es leader à la fin du championnat, t'es champion
du monde.
Le but,
c'est d'être leader à la fin du championnat au dernier Grand Prix, comme Sébastien Vettel en 2010. Ça, c'est clair. Mais quelque part, il veut obtenir quelque chose un petit peu en rattrapage. Et ce n'était pas non plus la physionomie qu'on a vue de la saison. Je pense que ça pèse beaucoup aussi. Et Lewis Hamilton est resté leader du championnat du 9e Grand Prix jusqu'au, je crois, c'était 18e à cette époque-là. Il a été 13 fois leader du championnat. Donc, il est quand même plus champion légitime sur l'ensemble de la saison. Felipe Massa.
Alors, j'ai un tout petit peu de mal avec cet argument parce que pour moi, le champion, c'est celui qui a le plus de points à la fin de la saison.
Donc,
si on dit on annule le résultat de ce Grand Prix et par conséquent, c'est Felipe Massa qui est champion, c'est Felipe Massa qui est champion.
Tout à fait. Alors, moi, ce qui m'étonne plutôt, c'est pourquoi 15 ans après.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est très, très,
très
étonnant.
Alors, quand tu dis que fin 2008, Bernie Ecclestone a eu vent de cette histoire parce qu'il y a des relevés télémétriques chez Renault.
Et
il y a Max Mosley, le président de la FIA. Aussi.
Mais en fait, je crois que c'est Mark Webber qui avait dit que, de toute façon, lui, il était pilote à l'époque. Et dès l'arrivée, il dit en interview à des journalistes, ce qui s'est passé, c'est très bizarre. Les pilotes, ils savent ce genre de choses. Ils savent éventuellement où un des leurs peut se tromper, peut faire une erreur, comment ça peut arriver. Là, clairement, Mark Webber, il faut regarder, c'est très bizarre. Et il sous-entend clairement qu'il y a eu tricherie. Dès la fin du Grand Prix.
Pas sur l'accident, sur l'arrêt au stand d'Alonso, qui se situe un ou deux tours avant l'accident. Et dans aucun plan de course, dans aucune écurie, n'était prévu de s'arrêter à ce moment-là.
C'est là qu'ils ont senti
qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, quand je te parle pourquoi 15 ans après, c'est surtout le timing. Parce que cette histoire-là sort exactement, officiellement, le 30 août 2009. C'est TV Globo qui commence à en parler. Et là, tout s'emballe et ça va très vite. Et après, on comprend qu'il y a eu quelque chose d'étrange, de bizarre. Et là, la FIA met à pied Flavio Briatore à titre conservatoire. Et on sent qu'en fait, il va y avoir une grosse sanction. Mmh. Bon. Et Felipe Massa lui-même s'exprime en disant « En fait, j'ai été floué. » Tout simplement, c'était au mois d'octobre. Et il fait une déclaration claire le 2 octobre en disant on m'a pris quelque chose. C'est anormal. Il y a eu quelque chose d'illégal qui s'est passé. » Et là, c'est un appel du pied à la FIA. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que le timing n'est pas très bon. On est en pleine élection. On est en fin de mandat de Max Mosley. Et qui se présente à la présidence de la FIA ? Jean Todt.
Eh oui.
Jean Todt, qui est le père de Nicolas Todt, qui est en fait
l'agent
de Felipe Massa. Donc, ça veut dire que dans cette histoire, si tu engages une procédure qui est quand même un petit peu délicate, c'est pas que tu reviens à être jugé parti, mais il y a des...
On peut t'accuser effectivement d'être jugé parti, oui.
Voilà, si tu lances
même si tu l'es pas, c'est si ça qui est terrible.
Parce que Jean Todt est élu le 23 octobre 2009, donc ça veut dire que trois semaines avant, en fait, Felipe Massa 2009, il fait cette déclaration. Ça veut dire qu'il ne veut pas aller plus loin pour ne pas perturber l'élection. Il va y avoir une nouvelle présidence. Donc, il laisse un petit peu tout ça courir. Mais après, c'est d'autant plus délicat de réclamer quelque chose auprès de la FIA parce que Massa contre la FIA, en fait, c'est pas Kramer contre Kramer, mais c'est Todt contre Todt.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est un petit peu délicat et c'est un petit peu troublant.
Mais donc, pourquoi avoir attendu 15 ans, c'est ça, entre les deux, entre le fait sur le moment parce que les conditions étaient un petit peu compliquées et attendre 15 ans pour finalement exhumer cette histoire, c'est très très curieux.
Alors le bon timing pour moi, c'est la finale d'Abu Dhabi 2021.
C'est ce qui a relancé finalement.
On est dans les derniers jours de la présidence de Jean Todt qui va passer la main, qui ne se représente pas. Et là, je pense que le clan Massa doit profiter à ce moment-là de cet énorme couac, de cette défaillance gravissime de la FIA qui a mal géré tout ça, la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton, pour dire, regardez, en fait, il y a une distorsion, là, il y a quelque chose de déloyal. Mmh. Et moi aussi, j'ai subi ça en 2008. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et là, il pouvait inclure son cas dans celui d'Hamilton et de Verstappen. Mercedes aussi qui s'est posé la question, est-ce qu'on va devant les tribunaux ?
Et ils n'y sont pas allés finalement.
Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire quelque part que ce n'est pas raisonnable d'y aller parce que
c'est trop tard. Et puis parce que de toute façon, il y a une règle qui dit qu'une fois que les récompenses sont remises, ça y est, c'est entériné. Donc en gros...
Ou alors il faut quelque chose d'effet extrêmement grave pour ça.
Mais là je vois pas plus que tricherie avérée, je vois pas bien. Bon, maintenant honnêtement entre nous, ce qui va se passer, c'est que ça va se régler dans les coulisses, on va lui donner un chèque et puis on en parlera plus.
Je sais même pas parce que qui va sortir l'argent. C'est aussi ça le problème et pour l'instant, on n'a pas eu de signal de la FIA pour dire nous avons bien compris la mise en demeure du clan Massa pour décider de quelque chose et je précise que Nicolas Todt est toujours aujourd'hui l'agent de Felipe Massa aussi dans ses engagements sportifs, il gère sa carrière, etc. Donc là encore, c'est pareil, Jean Todt n'est plus président de la FIA, mais c'est encore, on est dans quelque chose d'extrêmement délicat.
Alors, ça c'est pour l'histoire récente avec Felipe Massa qui en ce moment donc réclame finalement réparation. On a cherché justement à revenir un petit peu
quelques cas
historiques. On va pas en faire des heures à chaque fois parce que là sinon on peut y passer des jours entiers. Le plus récent, Stéphane, c'est effectivement la dernière épreuve apocalyptique pour l'image de la Formule 1, ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 entre Max Verstappen et et Lewis Hamilton, avec clairement un Michael Masi qui a été dépassé par les événements, une relance de course, des procédures de course qui ne sont pas respectées comme le veut le règlement, et on n'a rien changé. Et comme tu le disais, Mercedes n'est pas allé faire appel devant les tribunaux, de la même manière qu'on le verra, il y a eu un autre cas qu'on va évoquer en 1983, de la même manière qu'en 1983, Renault n'est pas allé porter réclamation parce qu'on participe à une discipline et que quelque part on se dit que si on porte réclamation, on va entacher la discipline.
Alors ça, c'était autre chose, parce que Prost était en plein divorce avec Renault. Le torchon brûlait.
On va y revenir. Tout à fait. On s'intéresse d'abord à 2021.
Alors, 2021, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la FIA est fautive et elle ne crée pas quelque chose d'exceptionnel pour dire, OK, Max Verstappen est champion du monde. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous avons été défaillants sur le point de l'application du règlement. Et je ne sais pas ce qu'il fallait faire, un conseil mondial extraordinaire ou quelque chose, pour proclamer aussi, pourquoi pas, Lewis Hamilton champion du monde, parce qu'il est champion du monde moins un tour. Ouais. Et on voit tout ce qui s'est passé dans ce fameux tour, par la faute de la FIA. Et il y avait peut-être quelque chose à faire, mais comme tu l'as dit, Mercedes n'a pas voulu engager des poursuites. Je trouve que c'est peut-être aussi bien comme ça, parce qu'autrement, on pourrait refaire d'autres palmarès.
C'est ça, palmarès. On peut refaire tout le palmarès
alors,
de la Formule 1.
2008, moi, tu vois, il y a peut-être une réserve là-dessus, parce que tu te souviens, en 2008, en fait, McLaren est exclu du championnat du monde. Alors, ils ne sont pas exactement exclus, on leur retire tous leurs points.
Oui, c'est
Donc, ils finissent la saison avec zéro point. Mais par contre, ils ne touchent pas aux pilotes. Donc, Lewis Hamilton est bien champion du monde, alors que il pilote quand même une voiture qui est une déclinaison du modèle 2007 et qui a peut-être été bonifiée aussi par
l'espionnage de Ferrari.
Voilà, tout à fait, parce que courant 2007, des ingénieurs, les designers, certains designers chez McLaren avaient eu tous les plans, l'intégralité des plans de la Ferrari. Et donc, Lewis Hamilton pilote peut-être en 2008 avec une voiture rendue meilleure par ça, mais on n'est pas allé plus loin que ça, parce qu'autrement, si on cherche la petite bête, on ne s'en sort plus. Bon, voilà, donc il faut passer. À l'époque, Ferrari s'est contenté de cette version, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été en partie champions du monde, parce que je ne sais pas quels étaient les points marqués par McLaren à cette époque-là, mais McLaren aurait peut-être pu disputer le titre constructeur. Ouais. Il est revenu à Ferrari, donc c'était peut-être un jugement un petit peu de compensation. Voilà. Et puis après, bon, on peut regarder 94, Schumacher.
Ah oui, le titre de Michael Schumacher.
L'accident bizarre avec Damon Hill dans la finale d'Adélaïde. On a tous ces images en tête, ou en tous les cas, on peut les retrouver facilement. Autrement, c'est...
Et puis l'antipatinage de cette Benetton de 94, hein, oui. Où on a fait la démonstration aussi qu'il y avait quand même des logiciels, ou en tout cas des
tout
parties de la programmation du logiciel qui étaient quand même très, très curieuses. Bon, on n'est pas revenu en arrière.
Non. Mais par contre, peut-être le titre qui pouvait être retiré, c'était 1990, parce que Senna fait un acte délibéré contre Prost. Il le sort. Tout simplement pour ce courant.
Premier virage du Grand Prix du Japon. Hein.
À Suzuka. Et là-dessus, il aurait pu être exclu du championnat.
Pour un geste antisportif.
Pour ça, sachant qu'il y avait la télémétrie, il y avait déjà beaucoup de choses à l'époque qui étaient absolument confondantes. La vue, la scène de l'hélicoptère, filmée d'hélicoptère, est confondante pour Ayrton Senna, qu'il avouera un an plus tard. Donc on aurait peut-être pu aussi le destituer un an après. Mais là, c'est pareil, la FIA ne veut pas ressortir ces dossiers-là.
Oui, et puis
c'est peut-être mieux comme ça.
Ouais, et puis on se dit que finalement un an avant, il y avait eu l'accrochage pareil au Japon aussi.
Exactement.
Et puis le titre était revenu.
Alors
à Alain Prost,
dire,
bon, allez, un partout, balle au centre.
Alain Prost, voilà, l'a fait exprès. C'est pareil, on peut toujours débattre là-dessus. Et puis effectivement, il y a cette histoire de 1983.
Alors là, on remonte 40 ans en arrière. 1983, c'est Nelson Piquet, le père de celui qui s'est mis dans le mur à Singapour, qui est titré avec une Brabham BMW. Et il paraît que quand on était derrière la BMW, on avait les yeux qui piquaient tellement le carburant qui était utilisé n'était absolument pas réglementaire et qu'il était
non,
tellement...
Alors, il n'était pas hors règlement, il était légèrement en dehors des clous sur certaines valeurs, mais légèrement, simplement. Et là, FIA a dit, même si Renault avait porté réclamation, on ne sait pas si ce qu'on aurait fait, si on l'aurait vraiment, on l'aurait privé de titre, mais on a considéré à l'époque que ça donnait sur tapis vert le titre à Alain Prost, mais Renault n'a pas voulu faire cette démarche-là pour couronner Alain Prost, qui serait parti avec le numéro 1 voilà. chez McLaren. Ça aurait fait un petit peu, ça aurait été étrange, on en est resté là.
Juste pour faire une petite parenthèse là quand même, simplement pour dire à ceux qui sont encore sous le coup de ce qui s'est passé en 2021, voilà des titres qui sont sulfureux, qui laissent une trace bizarre, finalement, il y en a tout le temps. On s'arrête à 1983, mais je suis sûr que si on remonte, on peut en trouver d'autres. Le sport, finalement, c'est un petit peu à l'image de l'humain. Hein. C'est pas parfait, c'est pas toujours très juste, c'est pas toujours très fair.
Et on vit avec.
C'est comme ça. Et voilà, la Formule 1, elle continuera. Elle s'est pas arrêtée en 2021. Il y a eu d'autres cas dans l'histoire avant. Et ça nous a paru intéressant de mettre un petit peu en perspective tous les moments où on aurait pu très bien dire, eh ben non, on change le palmarès, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, le carburant utilisé par Piquet en 83 n'était pas exactement dans les clous, bah hop, on l'enlève du championnat et on change. Mais non, parce que Alain Prost, il est quadruple champion du monde de Formule 1, on va pas lui donner un titre 40 ans plus tard. Enfin, c'est fou, on va pas en enlever un à Ayrton Senna, on va pas en enlever un à Michael Schumacher. Enfin, ça deviendrait complètement fou.
Même si Nelson Piquet père le mériterait juste par ses déclarations. Navrante.
Oui. Oui, mais c'est autre chose.
Au-delà ça, même du navrant.
Ça, c'est de la justice. C'est pas. C'est, voilà. Bref. On voulait reparler. On attendra de voir si on a des informations nouvelles sur la demande de Felipe Massa, s'il y a une action en justice qui est engagée, ou s'il y a un accord entre les deux parties. On le saura sans doute un jour.
Il restera peut-être secret parce que la FIA a le goût du secret.
Ça, c'est clair. On retournera à Singapour cette fois, j'espère, que pour du sport, dès vendredi, avec la première séance d'essais libres à 11h30, la deuxième à 15h, samedi, troisième séance d'essais libres à 11h30, la qualif à 15h, et le Grand Prix, lui, est programmé à 14h ce dimanche. Toujours assez spectaculaire, hein, ce Grand Prix de Singapour. On a tout dit, je crois, mon cher Stéphane. Ah si. Dire quand même que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, que si vous avez aimé, vous pouvez mettre 5 étoiles. Si vous n'avez pas aimé, vous avez écouté jusqu'au bout. C'est bizarre.
Mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, vous n'aimerez pas.
Non, peut-être, oui, il faut revenir. Et puis aussi, il faut vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On a tout dit, Stéphane, il nous reste notre traditionnelle conclusion. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point après le Grand Prix de Singapour. Et d'ici là, on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.